Cardigan.
Cardigan présente Le sang sur le sable. Charakai, tome 2. De Bradley P. Beaulieu. Traduit de l'anglais par Olivier de Bernard. Lu par Manon Jaumont. Chapitre 1er. Caché entre les branches d'un figuier taillé avec soin, Cheda observait les mouvements des lances d'argent, les soldats des rois, au sommet des remparts du palais. À travers les feuilles, la jeune fille évaluait la longueur de leurs pas tandis qu'ils marchaient d'une tour à l'autre, mémorisait les endroits où ils s'arrêtaient et le temps qu'ils y restaient. Elle prêta particulièrement attention au moment de la relève et constata avec soulagement que les nouveaux soldats étaient les mêmes que ceux qu'elle avait aperçus les nuits précédentes. Il fallait tenir compte de leur humeur et Cheda s'efforça de la jauger, bien qu'elle fût cachée une centaine de pas en contrebas. Elle fut heureuse de constater que les gardes étaient vigilants, mais pas plus que d'habitude. S'ils avaient été sur le qui-vive, aux aguets, elle n'aurait eu d'autre choix que de renoncer à tuer Kiral, le roi des rois. Kiral résidait à Maregal, le palais de Charakai érigé au sommet de la colline de Toriyat. C'était le plus grand et le plus haut palais de la cité. C'était également le mieux protégé et ses remparts étaient immenses. À l'ouest, il surplombait une paroi rocheuse qui empêchait toute attaque d'envergure. Les tours de garde espacées de 50 pas se dressaient comme des sentinelles, et au bout de la route sinueuse, il y avait des douves qu'on ne pouvait traverser qu'en empruntant un pont-levis, qui, contrairement à ceux des autres palais, était généralement relevé. L'endroit n'était pourtant pas inviolable. Avec un entraînement rigoureux, une solide préparation et surtout une bonne dose de patience, il était possible de franchir n'importe quelle muraille et de pénétrer dans n'importe quelle forteresse. À en croire certaines histoires, des hôtes sans lune avaient réussi à s'introduire dans Maregal des années plus tôt. Personne ne savait ce qui s'était passé ensuite, mais une chose était sûre. Franchir les murailles n'avait été que la première de leurs épreuves. Le palais était surveillé par les lances d'argent et le corps d'élite des Vierges du Sabre. Et puis il y avait Kiral qui, malgré 400 ans passés à arpenter le désert, était toujours l'un des guerriers les plus redoutés du Shangazi. Veillant à ne pas faire bouger les branches, Cheda se pencha sur le côté et observa un grand soldat qui longeait les créneaux. Un autre marchait quelques pas derrière lui. Son casque et le fer de sa lance reflétaient la lumière dorée du soleil couchant. Les deux hommes surveillaient les pentes inclinées de la colline ou regardaient vers la cité d'ambre qui s'étendait au-delà des murailles de Toriyat, au nord, à l'ouest et au sud du domaine royal. Cheda pouvait apercevoir la ville, elle aussi. Charakai était un labyrinthe de ruelles se frayant un chemin entre des immeubles disparates, des temples imposants et des masures aux murs penchés. C'était un curieux mélange de bâtiments de tous âges et de toutes tailles. Certains étaient dans un tel état de délabrement qu'ils ne résisteraient sans doute pas à la prochaine tempête de sable. Le cœur de Cheda accéléra tandis qu'une brise chaude se levait et faisait frémir les feuilles du figuier. Un garde regardait droit vers elle. L'arbre, qui faisait partie d'un bosquet s'étendant en contrebas de Maregal, la dissimulait efficacement, et l'armure de cuir de la jeune fille avait été teinte de manière à se confondre avec l'écorce du tronc et le sol rocheux. Cheda l'avait rembourrée au niveau du ventre, de la poitrine, et des bras pour déformer sa silhouette. Elle avait également pris soin de comprimer ses seins avec une bande de tissu et d'enfiler des bottes trop grandes pour que les soldats pensent avoir affaire à un homme quand ils la remarqueraient. Car être repéré n'était pas une simple éventualité. Cela faisait partie de son plan. Mais pas tout de suite. Elle observa le garde sans oser respirer, certaine qu'il l'avait aperçue. Mais au bout de quelques instants, l'homme cracha par-dessus les créneaux et dit quelque chose à son camarade avant de se remettre en marche. Les deux soldats éclatèrent de rire avec cette spontanéité coutumière des innombrables fumeries de la cité d'ambre. Et comme si cette comparaison avait soudain réveillé la ville, les échos d'instruments de musique résonnèrent dans l'air du soir. Quelque part, une fête battait son plein. Les deux lances d'argent s'éloignèrent et disparurent dans la gueule béante de l'entrée d'une tour. Cheda se détendit enfin. Mais son assurance commençait à s'émousser. Où étaient les autres?